Donc, vous êtes témoin du monde sur la perception, l'appellation de ce débat. Juste pour dire, pour celles et ceux qui n'ont pas lu, qui ne savent pas, etc., d'où ces personnes écrivent. Yann Millared écrit, entre autres, du dimanche. Je dis entre autres parce que vous n'avez pas écrit que là-dessus, même si c'est quand même très essentiellement ce à partir de quoi ou sur quoi vous écrivez, puisque vous êtes libanaise, si je me trompe. Votre livre, là, pour lequel vous venez avril, ça c'est une implosion plurielle, hein,
c'est ça.
Et pour cause, puisque ça prend racine le 4 août 2020, puisqu'il s'est passé deux explosions à Beyrouth, 128 morts autour des derniers bilans.
200.
Et
nous aurions dû être 2000. Parce qu'on a eu de la chance. Non, parce que c'est vrai, à cause du confinement, les gens ont pris l'habitude de ne plus traîner. Dans le coin, enfin à Beyrouth, c'était en plein été, donc les gens montent à la montagne. Et voilà, on a vraiment. Je ne sais pas comment on est que 200 morts, quoi, franchement. Parce que c'était une explosion, la troisième plus importante, c'est la troisième après Hiroshima. C'était quand même assez spectaculaire. Moi qui ai vécu la guerre, c'était très très traumatisant, quoi. Donc, je sais pas comment, on s'en est bien sorti.
C'est votre huitième livre au moins, hein. Je dis au moins parce que sur ce qu'on a dans le chef de l'Espiseur, il y a...
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas une infidélité. Je bouge beaucoup, voilà. Mais là maintenant, je suis entre Équateur et Flammarion. Et ce livre a été vraiment initié par Équateur. Je dis toujours, j'aime bien le dire et le rappeler, que je dois beaucoup à ce livre et à Olivier Frébault, mon éditeur, qui a évidemment avec toute l'équipe, parce que j'étais vraiment au fond du trou après le 4 août. D'abord, j'étais au fond du trou parce que mon dernier livre est mort, tué par Covid, dont j'utilise un peu des termes un peu... C'est fort, un livre tué, mais c'est vrai qu'il est mort né, comme tous les 8 de mars. Il est paru le 18 mars 2020 et le 20 mars, le monde entier était confiné. Donc ce livre n'a jamais vu le jour. Donc j'étais déjà en train d'enterrer ce livre, en train d'enterrer le pays, parce que le pays aussi était en déliquescence bien avant le 4 août. Le 4 août n'est venu que signer l'arrêt de mort, on va dire quelque chose comme ça. Et donc vivre dans un pays qui est en totale déliquescence avec cette marche funèbre de ce livre sur lequel j'ai travaillé 4 ans, c'était très compliqué pour moi. Et je commençais à écrire d'ailleurs un livre sur ce double deuil, quand tout à coup... il y a ce machin qui nous saute en pleine gueule. Et là, je me dis que plus rien n'a de sens, ni même écrire, parce que je pense qu'il y a des moments où même témoigner d'un tel degré d'absurdité humaine, d'incompétence politique, je suis restée sans voix durant un vrai mois. Et c'est Olivier qui m'a appelé avec cette phrase, alors que j'étais partie ailleurs. Et moi, j'aime ces amitiés-là qui dépassent tout. Et « Ma chère Yann, comment vas-tu ? » C'est une phrase bête, c'est une phrase lambda, c'est une phrase vraie. Pour moi, vraiment, elle m'a sauvée. Et je me suis remise à écrire grâce à ces coups de fil répétés. Ce n'était pas une phrase comme ça. Il m'a appelé 2-3 fois. Et il m'a presque commandé ce livre que j'écris. Et que, pour moi, c'était très salvateur. L'écriture, finalement, qui revient... et qui est parfois initié aussi quand... c'est là où les relations humaines sont primordiales et les mesures sanitaires nous ont un peu écartés de ce rapport à l'autre qui est aussi charnel, qui est organique, qui est dans la voix, mais dans la vraie présence des êtres. Et pour moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont ramené à l'écriture avec ce livre-là. Et donc c'est les implosions innombrables. Alors bien sûr, nous témoignons du monde, j'ai témoigné de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous arrive au Liban, mais par la sphère de l'intime, et je travaille beaucoup pour moi dans tous mes livres un peu, et spécifiquement aussi dans Implosion, sur l'aspect politique de l'intime, sur comment nous sommes traversés. Je trouve que c'est très intéressant, je trouve que finalement, il n'y a pas de grande histoire autrement que racontée par nos petites histoires. Et donc, c'est l'histoire d'un couple en déliquescence dans son intimité à l'intérieur d'un pays qui s'écroule. Et comment est-ce qu'on fait quand on va chez un thérapeute pour régler ces problèmes de couple, justement, qui ne vont plus ? comment on fait pour, une fois qu'on est à quatre pattes à cause de l'explosion, avec la thérapeute, la thérapie est à quatre pattes, le pays est à quatre pattes, tout le monde est à quatre pattes, on fait comment pour se relever, pour reconstruire cette vie de tous les jours à laquelle nous sommes bien obligés de poursuivre, enfin, dans laquelle nous sommes obligés de poursuivre la route. Il y a des enfants, il y a, voilà. Et puis il y a aussi les enfants, la poésie. Voilà. Il y a toutes ces choses-là, il y a l'écriture, la poésie. Il y a toute cette, toutes ces choses qui nous assignent à la survie, heureusement.
On va y revenir, mais donc le livre, c'est aussi voilà. Donc, c'est la, les implosions. Il y a 125 courts chapitres qu'on pourrait y aussi un peu des vignettes.
125
oui.
C'est vrai.
Oui, oui.
Ah, ok.
Oui. qui sont aussi des vignettes, des considérations, des photos, où justement on a une narratrice, un compagnon, il est question qu'ils aient des enfants, mais dans ce monde-là, etc. Il est question de considérations plus politiques, d'interrogations plus politiques sur le vivant dans leur couple. C'est aussi ça que
oui.
Raconte, que met en scène le livre. À votre gauche, on a le voyageur immobile de la table ronde, puisque c'est ça aussi, les tribulations d'un Français en France. C'est né aussi, me semble-t-il, hein, quelque part, des obligations du confinement, ouais. Parce qu'effectivement, alors c'est des chroniques qui ont été publiées, alors là, pour le coup, je les ai moins comptées, pardon, si vous preniez mal, mais on va...
Il y en a 132. Il y en a 12, je crois. Et effectivement, c'est né
au premier déconfinement.
Premier déconfinement, la fin du premier déconfinement. Là, il faut s'en souvenir, rembobiner un peu. C'était donc mai, on a été confinés, je crois, en mars 2019.
Oui, jusqu'au début mai, mi-mai 2020.
Ouais. Ouais. Et puis, on s'est retrouvés, on a eu un peu des grandes vacances quoi, qui ont commencé mi-mai, fin mai. Et un été merveilleux, on recouvrait la liberté. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'ai travaillé pour Le Figaro comme critique d'art dramatique. C'est un peu ronflant comme terme. Mais en fait, je critiquais les pièces de théâtre. Hein. Donc, j'allais tous les soirs au théâtre.
Sauf que là, le théâtre était fermé.
5 ou 6 soirs par semaine. Et là, les théâtres étant fermés, je foutais pas grand-chose au journal. Ils ont fini par s'en rendre compte. Il faut t'occuper. Est-ce que tu as une idée de série d'été? Et ça, c'est quelque chose qui a cours dans la plupart des journaux, des quotidiens, certains magazines aussi, c'est des séries d'été. Donc on envoie un journaliste faire un reportage en long cours qui paraît sur plusieurs numéros, qui est divisé en plusieurs épisodes. Et c'est le rêve pour un journaliste, en tout cas moi c'était mon rêve. Donc quand ils m'ont proposé de trouver un sujet de série d'été, je ne me le suis pas fait redire deux fois. Et je leur ai proposé un tour de France des villes. C'est compliqué, en gros un tour du monde de France. C'est-à-dire que j'étais tombé quelques mois plus tôt dans une brocante, pas très loin de chez Olivier Frébourg, une brocante en Normandie. J'ai tombé sur une vieille affiche.
Ça, c'est où habite Olivier Frébourg.
Je donnerai le digicode. J'étais tombé sur une... Il y avait un tas de papiers, je me souviens, c'était un vide-grenier. Et il y avait une vieille affiche entoilée, vous savez, ces belles affiches des années 20, 30. Là, c'était une affiche des chemins de fer du Nord. Et ce sont des affiches dessinées, quand vous les avez en tête, et qui vendent en général une ville ou une région. Et là, il y avait marqué Coutances, la Tolède du Cotentin. Et ça me paraissait tellement mensonger comme appellation, Coutances, la Tolède du Cotentin, que ça m'a fait rire d'abord. J'ai trouvé ça culotté. Et je me suis souvenu que Montargis, on appelait Montargis la Venise du Gâtinais. Et qu'il y avait comme ça aussi il y avait la Toscane en banlieue de Nantes, qu'il y avait un Monaco du Bas-Rhin, et qu'il y avait comme ça un certain nombre de villes ou de villages qui revendiquaient une sorte de ressemblance. Parfois, c'était des syndicats d'initiative un peu farfelus dans les années 20, comme Coutances, qui s'était imaginé qu'ils ressemblaient à Tolède. Mais enfin, ça m'amusait ce rapprochement imaginaire, fictif, entre deux villes. Et je me suis dit qu'il y avait là matière à une série d'été, un thème de série d'été. C'est-à-dire, et c'était en plus de circonstances, quoi, faire le tour du monde sans passer les frontières.
Parce qu'effectivement, on ne pouvait pas.
Et moi, ça m'allait bien parce que c'est pas mon premier tour de France. J'ai beaucoup circulé en France, dans tous les sens, vraiment. Et je suis venu par tourner en rond, peut-être un peu, mais c'était déjà mon troisième tour de France. Et donc, je crois qu'en fin de compte, pour être honnête, je cherchais un prétexte pour visiter la France et les Français, plus que voilà. Ça, c'était un prétexte tout trouvé pour visiter donc ces 12 coins du monde en France.
Sachant qu'avant, vous avez fait un guide des petits cafés, je crois.
Oui, un guide.
Alors, d'ailleurs, aussi aux Équateurs, je crois.
Cette fois aux Équateurs.
C'est comme ça que vous savez où habite Olivier Clément.
Non, je le savais d'avant. C'est mieux, curieux. Non, je le savais d'avant parce que mon premier livre a été coécrit avec un ami d'enfance qui s'appelle Pierre Adrian, qui est journaliste à l'Équipe. Et qui est mon copain depuis qu'on a 10 ans. On a fait les 400 coups ensemble et à 18 ans, un peu plus tard, 22 ans je crois, on a rencontré fortuitement Olivier. C'est drôle d'ailleurs, Olivier Frébault, chacun de notre côté. J'ai rencontré à Toulon dans des circonstances curieuses. Et Pierre aussi, je ne sais où. Et il s'est dit, et moi il m'a dit, c'est drôle, parce que donc Pierre était un copain vraiment d'enfance. Quoi. Et Olivier me dit, il y a un type là qui me fait penser à toi, je pense que vous entendriez vraiment bien. Et il dit la même chose à Pierre. On dit, bah d'accord, oui, il s'appelle comment? Et donc on s'est dit que c'était trop fort et qu'il fallait en faire quelque chose, en faire un livre. Olivier nous a dit, est-ce que vous ne voulez pas faire un livre ensemble? Et c'était, oui, il a du nez, cette...
Oui, oui, moi, pour moi, Olivier, c'est... Comment pas.
Ouais, et voilà, et donc il nous avait poussé à partir en voyage. Et déjà, on était parti sur les traces d'un vieux manuel scolaire de la Troisième République qui s'appelle
Le Tour de France par
les enfants. Voilà, dans lequel des générations de Français ont appris à lire, ont appris l'histoire aussi, la géographie, ont appris la morale aussi, parce que c'était plein de leçons de morale et assez patriotique. Enfin, c'était un livre vraiment très Troisième République. Et déjà, c'était un prétexte pour visiter la France. Sur les traces de ce manuel.
Alors, pour ce qui vous concerne, Olivier Rogez, on va dire comme dessus, puisque si on est un peu entre les deux, vous, c'est votre troisième roman, hein, c'est la troisième fois que vous dites, il était une fois, alors la première fois vous le disiez en Afrique, en imaginant un dictateur, enfin en imaginant.
Imaginons un jeune capitaine prendre le pouvoir dans un pays.
Voilà. Ça, c'était en 2017, si mes souvenirs sont bons. Le deuxième livre, deuxième roman, il y a 2 ans, les trois sont dédiés aux éditions du Passage. Hein. C'était en ex-URSS. Je dis ex-URSS parce que justement, c'était vraiment l'URSS où ça commençait, d'avant la chute du mur. Et justement, c'est juste avant et juste après. Voilà, la période charnière, avec des secrets sur l'industrie nucléaire, avec les appareils d'État soviétiques sont-ils compatibles dans le monde d'après qu'on pouvait l'imaginer notamment
L'idée, c'était plus de parler de cette période de transition entre la chute du mur de Berlin en 89, la chute de l'URSS en décembre 91, et c'était de repenser à toute cette période de bouleversement fondamental d'un ensemble de nations soviétiques qui passent du jour au lendemain à un système, on va dire, entre guillemets, capitaliste. Donc c'est une réinvention constante de la société, un bouleversement social extraordinairement terrible et traumatique pour des centaines de millions de personnes et qui ont conduit d'ailleurs aujourd'hui au poutinisme. Et je voulais parler de cet univers bouleversant en mouvement que j'ai connu, puisque moi je suis arrivé en URSS en décembre 90 et j'ai définitivement quitté la Russie en novembre 97, donc c'est une période que j'ai bien connue et qui était, c'était scotchant pour parler un peu vulgairement, vous m'excusez, cher public. C'était incroyable de voir à quel point tous les jours les gens inventaient la façon dont ils allaient survivre le lendemain. Je suis arrivé à Moscou, il y avait 4 banques, c'était 4 banques d'État. Je suis parti, il y en avait 2000. La plupart étaient des petites banques. Il y avait 200 banquiers qui avaient été assassinés en 3 ans. C'était un univers absolument incroyable. Il y avait 40 000 enfants de la rue qui vivaient dans les égouts, dans les gares et dans les souterrains à Moscou. Il n'y en avait pas un en 89. On est passé d'un état X à un état Z, complètement différent, et avec une volonté de se réinventer, une volonté d'avancer, une volonté de survie aussi qui était absolument incroyable. Et c'est éminemment romanesque, parce que c'est aussi un pays qui partait à la recherche de sa propre histoire. On retrouvait dans cette Russie des décennies 90 une volonté de retrouver la Russie tsariste, pré-communiste, tant dans le domaine religieux, dans le domaine des mythologies aussi personnelles, dans le domaine des arts, de la culture, de la façon de vivre, tout en essayant de conserver le peu que le communisme avait enseigné aux gens de positif. Et donc c'était une décennie absolument incroyable et ça a donné ce roman « Les hommes insectes ».
Et là, le troisième roman, Retour en Afrique, sachant que vous êtes reporter, grand reporter à Radio France Internationale, spécialiste de l'historiographie officielle des questions de l'Afrique, donc là, du coup, vous y revenez, et vous imaginez ou pas, à Monrovia, capitale du Libéria, un prédicateur. Alors,
un ancien enfant soldat,
qui prêche. Alors évidemment, il raconte du vent, il vend ses salades, il vend du rêve, c'est selon. Et pour paraître, bah, il faut qu'il paraisse. Pour paraître vrai, il faut qu'il paraisse tout court, donc il faut qu'il se fringue bien pour que ce soit un peu crédible, pour que ça paraisse vrai. Et puis à un moment, il y a une pastoresse qui arrive dans le roman. Ouais, elle a un rôle un peu plus trouble que ça, qui nous ramène aussi un peu à l'espionnage ou à l'invente du rêve ou des croyances, parce qu'effectivement, elle vient d'un autre continent, elle vient des USA, et elle se dit que ce type-là, peut-être qu'il n'est pas seulement prédicateur, peut-être quelqu'un dont croyance avait prévu qu'il arrive sur Terre. Et puis, il y a un troisième personnage qui va arriver après dans le roman, qui lui est alors beaucoup plus rationnel et pour cause, il est militaire. C'est un type, son imaginaire, c'est quadriller le terrain, donc là, pour le coup, il va essayer de le quadriller. Et je ne peux pas trop dire, parce que là, pour le coup, après, je vais spoiler, mais voilà, il va y avoir un peu un concours de circonstances, une course-poursuite entre les trois qui va faire la trame de la fiction. Mais donc, des trois romans, Afrique le premier, Afrique ici, Europe et ex-URSS le deuxième, c'est donc sur le terrain où vous avez été reporter. Comment ça se passe après et quelle est l'envie de départ de venir ou de revenir à la fiction?
Alors en fait, d'abord je me suis posé la question de l'envie de revenir en Afrique, parce qu'en fait, je voulais écrire sur les églises. Sur le phénomène religieux et l'instrumentalisation que les hommes font de leurs églises. Donc en fait, pour reprendre un petit peu le scénario de ce dernier roman, Vindel est un pasteur libérien, un ancien enfant soldat qui prêche dans les rues de Monrovia, ce qu'on voyait au début, ce qu'on voit toujours d'ailleurs. Il rencontre une pastoresse américaine d'une église de réveil évangélique qui a fait souche en Afrique, qui elle a passé toute sa vie en Afrique et qui est un petit peu illuminée, Frances. Elle est persuadée qu'elle doit chercher un homme providentiel qui va l'aider à monter une caravane pour évangéliser l'Afrique musulmane.
Et donc,
pour la délivrer de l'islam. Ce que l'on voit au quotidien dans certains pays d'Afrique. Et donc, elle va voir Vindel qui est un petit peu un personnage bouleversé parce qu'il a eu cette enfance difficile, mais qui est un personnage pur parce que c'est l'un des rares dans le roman qui se pose la vraie question de la foi. Où est la foi dans tout ça? Vindel a une forme de foi qui est due à son enfance traumatisée, son enfance d'enfant soldat. Et ensemble, ils vont partir, donc ils vont monter une caravane qui va traverser l'Afrique de l'Ouest sur la ligne de contact entre les chrétiens et les musulmans. Et à un autre niveau du roman, donc la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite au nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, qui elle quitte sa famille parce qu'elle a envie de découvrir le monde, et elle va suivre un prédicateur musulman soufi qui lui aussi amène derrière lui une caravane de pèlerins qui croient en cet homme qui prêche la paix, la justice, la foi dans un monde bouleversé, dans ce territoire bouleversé qui est le nord du Nigeria, la région de Borno, l'état de Borno où sévit Boko Haram, et qui déborde sur le nord du Cameroun maintenant. Et donc en fait, on a deux caravanes en quelque sorte de gens perdus qui cherchent quelque chose, et moi j'adore perdre le lecteur. L'idée étant d'emmener de faire en sorte que mon lecteur va se dire à un moment, il va se passer ceci, c'est évident, il nous emmène là, et je bifurque pour surprendre les gens à chaque fois. Et en fait, les tribulations que ces deux caravanes vont suivre, elles vont emmener ces pèlerins musulmans et ces pèlerins chrétiens exactement là où on ne s'y attend pas, et là où eux-mêmes, où les personnages ne s'y attendaient pas. Ils cherchent Dieu, ils vont trouver autre chose. Et le personnage dont vous faisiez allusion, Balthus, c'est le seul personnage laïque du roman. C'est un militaire, part à la recherche de la jeune Laya, étant persuadée qu'elle a été kidnappée par des méchants djihadistes, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle s'enfuit, elle veut vivre sa vie. Et Balthus est un personnage laïque, profondément laïque. Il est même un peu philosophe, puisqu'il a étudié un peu la philosophie. Et finalement, je ne vous en dis pas plus, mais c'est le seul qui va connaître une espèce de miracle. Et c'est là où je m'amuse avec les lecteurs, je prends le contre-pied, parce que finalement, c'est le seul qui va rencontrer, d'une certaine façon, il va rencontrer Dieu, alors que les autres, nos personnages religieux, nos pasteurs, nos pastoresses, et même nos curés, puisqu'il y a des catholiques dans l'histoire, ils vont trouver autre chose. Il y aura des histoires très personnelles, etc. etc. Donc j'emmène tout ce petit monde de gens un peu perdus, je les fais marcher dans la brousse, je perds le lecteur, et j'essaie surtout de pousser tout le monde un petit peu à réfléchir au rôle pernicieux que peuvent avoir ces églises. Pernicieux parce que certains sont là pour s'enrichir, certains sont là pour dominer les autres, c'est des relations de pouvoir qu'on voit à l'œuvre dans certaines églises. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Oui, Wendell, le plus important, c'est le personnage qui se pose constamment la question de Dieu dans tout ça. Il est persuadé que les autres pasteurs, que les autres hommes d'église ont vu Dieu, entendent Dieu, et que Dieu leur parle, mais qu'à lui, il reste muet. Et il y a ce petit jeu entre la question de la foi, qui est une question intime et personnelle, et la question des églises, qui est une question sociale et d'une certaine façon politique, pour faire le trait d'union entre les trois mondes.
Non, bien,
voilà.
Vous avez bien présenté tous les autres. comment est-ce que vous entendez, Yamiared, la question de la foi, de la croyance, etc. Parce que ce n'est pas tout à fait les questions qui ont été posées à l'origine des conflits qu'on traversait, qu'on faisait au Liban, mais un peu quand même, parce qu'on parle du Liban aujourd'hui pour l'implosion des explosions ou pour la corruption. Enfin, il y a aussi des questions de croyance et de ligne de contact entre plusieurs conflits.
Alors moi, ce dont vient parler de Olivier, vraiment, c'est quelque chose qui me parle énormément.
Et en fait, il y a deux volets dans ma réponse. La première, c'est que je pense que le Liban subit le poids de ces religions instrumentalisées, de ces entre communautés, parce que c'est la grande erreur de penser que nous avons trois ou quatre religions, mais en fait nous avons 17 communautés. Chaque communauté, voilà, même électoralement, tout ça. Donc en fait, tout le monde est maintenu collectivement par sa communauté, après aussi par le biais économique aussi, puisque en appauvrissant les gens et en les maintenant dans un seuil de pauvreté, on passe notre temps à vouloir les sauver en les maintenant. En fait, c'est très 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 pervers, et c'est comme ça que ces chefs là, ces chefs de gang qui sont les seigneurs de la guerre, qui après Taef ont récupéré le Liban soi-disant pour le reconstruire sur une base de Taef, c'est un accord de paix qui est un faux accord de paix, puisqu'en fait il a amnistié tout le monde. Donc on n'a jugé personne pour leurs crimes de guerre, et en amnistiant tout le monde, on leur a dit voilà, vous êtes tous amnistiés, maintenant vous pouvez reconstruire. En fait, ils ont détruit le pays, et après on leur a proposé de se remplir les poches en le construisant, donc en fait, et en échappant à toute justice. Et donc en gardant la main mise en tant que seigneur de guerre, ils l'ont gardé après en tant que reconstructeur, et en fait ils ont institutionnaliser leur pouvoir de telle sorte qu'aujourd'hui nous sommes sous une dictature. Nous avons une pluralité qui est en fait un conglomérat de dictatures qui s'entendent entre eux pour régner en nous divisant. Donc leur adversité est une fausse adversité, puisqu'en fait ils ont le même intérêt commun, qui est de s'enrichir sur le dos de notre appauvrissement permanent. Et par cet appauvrissement, ils sont en train de faire partir la classe moyenne, qui est la classe qui en général est celle qui descend à la rue, qui est capable de voilà. Donc en fait il y a un grand flux migratoire de cette classe moyenne, et celle qui s'est, il y a une classe moyenne qui s'est appauvrie de toute manière, l'autre est en train de partir, et donc ce pays est en train de se vider de sa force vitale, qui est cette société civile, qui est la seule dont l'énergie en fait a maintenu ce pays. C'est l'initiative privée de cette société qui a permis à ce pays de survivre malgré cette gangrène là et aujourd'hui il ne reste plus que la gangrène, puisque cette société civile, après le 4 août aussi, le 4 août a été tellement violent, ça a été un tel choc matériel, parce que jusque là cette résilience putride par laquelle on nous glorifie, qui est en fait pour moi atroce, parce que la résilience est une assignation, pas une assignation, est une tolérance qui peu à peu croît, voilà, et une tolérance à une à une dictature. En fait, on a développé l'acceptation de cette dictature à force d'être résilient. Et nos révolutions, les quelques révolutions que nous avons eues, en définitive, elle est otage des enjeux régionaux, de cette même mise communautaire, et elle est toujours annulée. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Liban est devant une impasse. Ce qui me parle aussi, c'est de ce que tu disais tout à l'heure à propos de ton voyage en Russie, de ce passage du socialisme à un hypercapitalisme. Eh bien, nous, c'est un peu l'inverse. On est passé d'un hypercapitalisme faux, d'un hypercapitalisme, il est faux partout de toute manière, mais c'est un hypercapitalisme qui s'est joué sur du vent, avec rien structurellement, et tout à coup, du jour au lendemain, on se retrouve dans une pénurie absolue de médicaments, de... Voilà, c'est un pays qui s'écroule. Voilà. Donc, pour reprendre la question du religieux, puisque c'était la question initiale, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tout est halluciné », qui est exact, enfin, qui est un peu le jumeau, parce que c'est une... c'est l'histoire d'une fille qui se réveille à 5 ans d'un coma, qui a zéro mémoire, qui trouve un homme qui est devant elle, et qui lui dit « Je suis ton père ». Elle a perdu la mémoire, perdu le langage, le temps de reconnecter avec le mot « père », elle comprend que voilà, elle cherche la mère, on lui dit interdit de parler de la mère, d'abord, c'est un gros mot, interdit de parler du Liban, c'est un mot de bête, enfin, c'est, dans tout le livre, c'est 3 points de suspension. Donc ce pays n'existe pas, elle grandit avec cet homme qui vit dans la nostalgie de Byzance, le regret de la chute de Constantinople, et qui décide de s'occuper tout seul du vide dans le cerveau de sa fille. Et donc, il a fait grandir dans un mythe qui est le mythe byzantin. Il est persuadé d'ailleurs qu'il y a toute une armée invisible qui est en train d'être montée pour faire renaître Byzance de son passé. Donc en fait, c'est un livre qui est traversé par des gens qui sont nostalgiques d'un passé fantasmé. Le père, avec Byzance, il répare des icônes du matin au soir en priant et en disant que lui d'ailleurs, il fait partie d'une grande armée. Et après, elle va rencontrer une Libano-Palestinienne qui, elle, vit dans la nostalgie de la cause palestinienne laïque, on reprend la laïcité, et dont la grand-mère a été une grande militante, et qui, à force de se heurter à, finalement, cette cause palestinienne aujourd'hui, ben, elle n'existe plus. Ça ressemble plus à rien. Et de colère, elle a viré, et elle est devenue... Elle a viré dans l'extrémisme religieux, la grand-mère. Donc comment est-ce que, la question de la foi, finalement, on a besoin de croire en une cause, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit laïque, palestinienne, voilà. Et quand cette cause ne fonctionne plus, à un moment donné, on vrille. Et donc ma narratrice va retourner sur ce pays de bègue, enfin le mot était toujours bègue, donc c'est là qu'elle rencontre cette Libano-Palestinienne, pour enquêter sur cette région, pour sortir en fait du récit de la réalité, pour toucher la réalité factuelle de plus près, puisqu'en fait, nous n'avons de la réalité que des récits. Et c'est par là qu'on nous tient. C'est-à-dire qu'au Liban, aujourd'hui, le grand problème, pour revenir à la question avant communautaire, c'est que nous n'avons pas un récit consensuel de notre histoire commune. Nous avons un hyper-récit, mais enfermé dans chaque communauté. Donc en fait, notre mémoire est une pluralité de mémoires qui ne se rencontrent jamais. Et d'où le fait que nous sommes instrumentalisés, chacun dans... Et d'où le fait que nous nourrissons finalement, nous grandissons dans la peur de l'autre. Et je pense que ce phénomène est aussi mondial. On a tendance un peu, marxistement, de manière très mondialiste, à dire que le Liban est un peu le laboratoire du monde. Mais je pense sincèrement que la complexité de ce pays est un miroir incroyable par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui n'importe où. Il n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, c'est la mondialisation, le fait que nous soyons mélangés. Les sociétés, désormais, à réfléchir de manière... doit pousser les sociétés à réfléchir de manière complexe à comment, finalement, gérer cette complexité et ne pas en avoir peur. C'est quand on en a peur qu'on voit qu'un Zemmour, aujourd'hui, a cette plateforme qui est, pour moi, venue du Liban. L'avenir, l'enjeu de l'avenir va être dans comment gérer cette complexité-là. Et j'espère qu'on va, le gérer mieux que... ce que nous voyons.
Attends, justement, cette notion de récit national, alors c'est pas au niveau politique qu'elle nimbe ce Tour de France que vous avez fait. Alors je tiens à dire qu'il y a des parcours en train, il y a aussi des parcours en stop, hein, donc il y a aussi des rencontres. C'est en ça qu'on peut parler de récit, hein. C'est pas juste un type qui va aller voir la Venise de ci ou la Tolède de là, etc. C'est aussi aller à la rencontre. Il y a aussi une partie du livre qui, donc des chroniques initialement commandées par le Figaro pour la série d'été, qui repose sur des rencontres et le stop. Cette notion de récit national, parce que tout à l'heure vous disiez bien comment ça lorgnait aussi vers le Tour de France par des enfants, où il y avait de la morale à une époque où il y avait aussi l'instruction civique dans les écoles, etc. Comment est-ce que cette notion de récit national, vous qui avez écrit ces récits de voyage, donc il y a aussi à raconter la France, comme Tesson l'a fait sur l'Arbre Noir par d'autres chemins pédestres pour ce qui le concerne.
Lui, c'était la diagonale du vide.
Voilà. Comment ça parle à l'entreprise qui est la vôtre et les entreprises qui seront les vôtres?
C'est très intéressant de vous entendre. Effectivement, dans le cadre du premier Tour de la France, là, on était sur les traces véritablement d'un récit national. Un récit national qui était d'ailleurs empreint de mythologie. C'était le récit national de la Troisième République. Il dit l'histoire comme ça. Monter les grands hommes en épingle. Et ce sont un récit d'une France glorieuse qui a voulu rendre les Français fiers de leur peuple. Et c'est la plupart de ces Français qui ont appris à lire dans ce livre-là sont partis en 14, fleurs au fusil, aller bouter l'allemand. Voilà.
Et d'autres étaient partis me coloniser avant.
Et d'autres étaient partis, absolument. Ouais. C'est un peu l'histoire de Michelet, quoi. Aujourd'hui, on revient beaucoup sur ces histoires là, légendaires, mais qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je crois que c'est Montesquieu qui disait tous les Français aiment la France, mais personne n'aime la même. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Yam. Moi, il se trouve que c'est infiniment moins complexe les questions que je soulève, puisque j'ai une façon de voyager, de faire des reportages assez peu académiques, à ne surtout pas montrer dans les écoles de journalisme, puisque je débarque dans ces endroits, donc ces villes ou ces villages, sous un fallacieux prétexte, hein, en l'occurrence le Tour du Monde de France, et je n'ai rien préparé, je n'ai pas pris de rendez-vous, c'est le seul moyen de ne pas arriver en retard, et je débarque, souvent ça commence au café, parce que c'est quand même ça, tous les journalistes un peu sérieux savent que c'est un bon reportage commence au café, c'est là qu'on entend, on prend le pouls. J'avais dit dans le guide la température d'un pays se prend par le coude, mais bon, c'est souvent il se passe des choses et on entend un peu l'humeur du coin dans ces lieux-là. Puis quand je sors du café, je me retrouve dans les ruelles, et puis là je trouve une dame à sa fenêtre, par exemple, elle me parle de météo, je lui parle de météo, et comme ça, elle va m'emmener sur une histoire, et je tire une pelote de laine. C'est comme ça que j'ai pratiqué ces reportages. Donc c'est pas du tout une approche holistique ou objective, surtout pas, c'est vraiment très très subjectif. Et pour autant, je pense que ça dit un peu quelque chose du temps, juste la prétention de croire ça. Et je crois que c'était toi qui disais ça, Yam, les petites histoires. Et ça, je crois absolument à ça. Que les petites histoires, toutes ces petites histoires additionnées, disent quelque chose de la grande histoire. Et ça m'avait frappé comme une illumination en traversant un village rue, vous savez, comme ça existe ces villages qui se construisent autour d'une nationale. Et puis, il n'y a rien, quoi. C'est comme un décor de western. Il y a deux rangs de maisons. Et puis plus rien, puis des champs de navets. Et en la traversant à 20h05 ou 20h10, en plein. C'était l'hiver, donc il faisait nuit. Je me souviens que le village était nimbé, je traversais en bagnole, et il était nimbé dans une lumière bleutée qui était la lumière du JT de TF1, quoi, enfin, ou de François, du 20h. Et toutes ces petites lucarnes qui regardaient la même chose, chacun de leur côté. C'était un peu le pendant. Enfin, l'héritier des veillées, quoi. Autrefois, tout le monde écoutait les mêmes histoires, mais ensemble. Je m'écarte un peu de la question.
Sur le récit national, etc.
Mais sur le récit national, bah, Précisément, moi, je ne suis pas à la recherche vraiment d'une cohésion quand je voyage. Je ne sais pas si ça peut répondre à cette question, mais je ne recherche pas tout ce que ces Français ont en commun. Je recherche plutôt ce qui les distingue. Mais ça, c'est une déformation peut-être professionnelle. Mais j'aime ce pays aussi pour ses particularismes qui tendent à disparaître. Enfin, ce sont des choses aussi bêtes que les accents. Mais j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup à ces accents, hein, par exemple. Et je déplore que tout ça s'uniformise un peu, mais ces particularismes visibles, audibles ou parfois beaucoup plus diffus qui m'intéressent, qui me fascinent et qui font que j'en ai pas encore fait tout à fait le tour de la France parce que je la trouve encore. C'est drôle, quoi. Vu de loin, on considère les Français comme une masse à peu près uniforme. Et en fait, quand on s'approche, on s'aperçoit qu'ils sont tous très différents. On est tous très différents et c'est formidable. Et oui, peut-être pour terminer, ce dernier livre, il y a donc ce tour du monde de France. Et à la fin, effectivement, vous en parliez, un tour de France en stop. C'est une autre série d'été que j'avais réalisée quelques années plus tôt. Où j'étais parti, un vieux rêve que j'avais, j'étais parti du centre de Paris, d'un café, là encore, au centre de Paris, à côté de Saint-Lazare. Et je rêvais de faire le tour de la France en autostop et sur ma pancarte d'inscrire n'importe où. Et j'ai fait ça un matin au café, à 7h du matin, j'avais marqué n'importe où. Il y avait un Égyptien qui était là au comptoir, un mec qui bossait sur les chantiers et qui me voit faire, il buvait son petit noir à 7h. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique, il me dit, tu vas vraiment n'importe où? Je lui dis, ouais. Il dit, moi je vais poser des chiottes sur un chantier à Clamart. Je suis monté dans ma camionnette. Je me suis retrouvé comme ça dans une camionnette pleine de plâtre avec les tubes en PVC, je sais pas quoi, les pots de colle qui bringlaient. Et en 1/2 heure de trajet, il m'a raconté sa vie, qui était une vie comme une autre, mais qui était fabuleuse quand on s'approche. Puis il m'a laissé à Clamart, et là, j'avais toujours ma pancarte. Une fille s'est arrêtée, qui allait acheter des chaussures de foot au Décathlon de Villeneuve-Saint-Georges. Elle dit, vous allez vraiment n'importe où.
Alors là, on fait vraiment de 20 bornes en 20 bornes.
Voilà, c'est voilà. Le départ était... Et elle aussi, qui était si différente du conducteur précédent, m'a raconté une vie. Et comme ça, j'arrivais au soir, j'étais monté dans 12 voitures, j'avais eu 12 histoires, j'avais la tête pleine de toutes ces voix. Et là, j'ai expérimenté à quel point tous ces gens sont différents et à quel point ils ne me soupçonnent pas. Voilà, parce qu'on est tous auto-centrés, moi le premier. Enfin, on a tendance à penser que tout le monde réfléchit selon le même mode de pensée. Et en fait, non. Mais c'est merveilleux, il faut s'en réjouir.
Ce que tu dis est très juste, c'est la beauté de ce métier de journaliste, c'est effectivement d'écouter les récits des gens, les histoires des gens. Et ça, c'est pour ça que je continue à faire ce métier.
Et comment ça nourrit justement des personnages, alors différents, alors je parlais par exemple des trois romans qui ont des préoccupations différentes, mais du coup qui brossent en fait vos préoccupations aussi, hein, comment on devient dictateur et comment on subit la dictature pour le premier, sur SF, etc., dans le deuxième, qui va être une croyance de foi collective ou intime, etc. Comment est-ce que ces écoutes-là, les écoutes de vous, pour ça nous nourrit le travail sur des personnages? Oui, forcément, il réfléchit comme ci parce qu'il est associé à là, puis il est cette page-là, etc. Comment ça nourrit les personnages?
En fait c'est toute la beauté du roman. C'est-à-dire que... il faut arriver à travers les personnages à raconter une problématique. Et donc, puisque tout part des personnages, puisque c'est nos personnages qui vont devoir évoluer dans le roman, il faut faire en sorte que ces personnages aient le plus de chair possible. Et cette chair, on va la bâtir à partir de nos souvenirs de rencontres, de la famille, des amis. Et petit à petit, on construit nos personnages dans leur complexité, leur profondeur, à travers toute cette vie qu'on a nous-mêmes accumulée. C'est pour ça que les romans, même s'ils se passent dans un milieu intergalactique à 20 000 années d'ici, ils sont toujours très très semblables à ce qu'a vécu l'auteur, à ce qu'a traversé l'auteur, parce qu'ils sont habillés par la chair que nous, anthropophages d'auteurs, on a ramassé au cours de notre vie.
Et on est
un peu des cannibales, des vampires, et on prend et puis après on habille nos personnages avec les autres.
Vous avez envie de vous rencontrer en tout cas.
Oui, c'est vrai, toujours ça, il y a du cannibalisme.
Voilà, mais c'est ça et c'est obligé. Et après, moi ce que j'aime bien, en fait c'est peut-être plus personnel à moi, j'aime beaucoup parler des thématiques politiques, mais simplement pour rendre le propos audible, tout doit passer par les personnages. Sinon, on fait des thèses universitaires et c'est pas du tout ni ma formation ni mon envie, et c'est trop compliqué pour moi. Donc, comme tout passe par les personnages, je prends des personnages. Mais, par exemple, sur le roman Là où naissent les prophètes, comme je voulais parler des églises, et notamment des églises de réveil, j'ai beaucoup travaillé sur les églises de réveil. J'avais remarqué une chose, c'est que le message du protestantisme est totalement dévoyé par les églises américaines, les églises latino-américaines et les églises africaines. Et j'ai tenté de comprendre pourquoi. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait un tas de thèses qui ont été écrites sur un quelque chose qui, à mon avis, est fondamental et qu'on ne voit pas forcément très bien. C'est à quel point la mondialisation libérale, et c'est pour ça que j'ai pensé tout à l'heure en t'écoutant, rien, la mondialisation ultralibérale a comme pendant religieux les églises de réveil, le néopentecôtisme et tous ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'on est passé d'un message protestantisme, du protestantisme originel, calviniste, suisse, qui était un message de retour à la pureté de la religion, à la foi, au dépouillement, qui était un message qui allait contre la richesse de Rome, ces évêques qui avaient des épouses, qui vivaient dans l'or, etc. etc. Le protestantisme est un mouvement de réactionnaire un peu janséniste, un retour à la pureté originelle. Les Américains ont dévoyé tout ça. C'est-à-dire que les églises de réveil, le mot d'ordre des églises de réveil aujourd'hui, c'est « enrichissez-vous ». On le voit aux États-Unis, les pasteurs sont milliardaires. On le voit à Kinshasa, on le voit à Lagos, les pasteurs sont milliardaires. Moi, j'ai rencontré des pasteurs à Kinshasa qui avaient un nombre d'entreprises que je ne pouvais pas imaginer. Il y en a un qui m'a posé un lapin en m'appelant la veille en me disant « je suis désolé, j'ai un jet privé, je pars à Miami ». À Kinshasa, l'une des villes les plus pauvres de la Terre, aussi les plus riches, mais où il y a un nombre de pauvres absolument incroyable, le gars avait un jet privé. Et tout ça, il l'avait nourri grâce à la dîme que versent les fidèles et à l'argent qu'il avait investi dans ses affaires. Le message qui est délivré aux fidèles en permanence par ces églises, c'est « si Dieu vous aime, vous serez riche. Si vous êtes pauvre, c'est qu'il y a un problème. Dieu ne vous aime pas. Et Dieu ne vous aime pas, pourquoi ? Parce que vous n'allez pas à l'église et vous ne payez pas la dîme au pasteur. » C'est aussi simple et aussi basique que ça. Et sur des populations désespérées, maintenues dans un alphabétisme sans récit national, et c'est là où on revient à ce que vous disiez tous les deux, sans récit national, pour tout un tas de raisons compliquées. Il n'y a pas de récit national quand on a 60 ans d'indépendance et quand on est constitué de briques et de brocs. De même, c'est très difficile de construire un récit national, tu le disais, quand tu as 17 communautés différentes. Et des populations sans récit national, analphabètes, maintenues dans la pauvreté, ces gens-là sont forcément facilement manipulables et surtout ont besoin de croire. Et on en revient toujours à ce besoin de croyance. Donc, pour en terminer sur ce propos, le phénomène global de la manipulation par les églises des gens est un phénomène capitaliste ultralibéral. Qui correspond à un moment de notre développement économique, à ce moment américain, à les églises pentecôtistes, les églises de réveil ont fait le tour, les évangéliques ont fait le tour depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis, et elles se sont déployées aux États-Unis, au Brésil, elles sont parties en Afrique, et au Ghana, l'une des... Alors ça, je vous raconte une petite anecdote qui, moi, me fait beaucoup rire. La plus grande église de réveil du Ghana, 5 millions de fidèles quand même, en 90, les gars se disent « ouais, mais... c'est pas mal la chute du mur de Berlin, mais ce qui serait peut-être bien, c'est d'aller évangéliser les soviétiques, les ex-soviétiques. » Donc, l'église de réveil du Ghana est allée à Kiev pour implanter des temples protestants. Les Ukrainiens leur ont dit « Vous êtes bien gentils, mais nous, c'est plutôt l'orthodoxie. Donc, si vous permettez, on va retourner à l'orthodoxie. On verra après. » Donc, ils se sont aperçus au bout de quelques années que ça ne marchait pas. Mais la mission évangélique des églises de réveil africaines en Europe occidentale, déchristianisée, laïque, est toujours vivante. Et les gens ont pour but de re-christianiser l'Europe. C'est clairement inscrit, c'est leur projet politique. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Parce que faut-il passer par les communautés africaines qui sont très sensibles et très présentes dans ces églises de réveil ? Faut-il parler le lingala, le swahili ou le français, etc., etc. Donc, tous ces problèmes compliquent un petit peu leur problématique. Mais les églises de réveil sont très puissantes. Autour de Paris, il y en a des centaines. Et elles sont pleines à craquer tous les dimanches.
Est-ce qu'il y a des questions que... enfin, non, ou des réactions du coup, du fait aussi qu'on est un peu...
Vous avez évoqué anticapitalisme, mais je n'ai pas compris ce que ça
voulait dire. Le Liban, c'est quand même une plaque tournante du blanchiment d'argent.
Ah, ok.
Et évidemment, avec les corrompus qui sont toujours en... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, tout politicien encore en vie au Liban est louche. Tous ceux qui sont morts sont ceux qui auraient pu changer la donne.
Et tous ceux qui sont restés servent des intérêts, blanchissent l'argent. Quand on blanchit l'argent, enfin, c'est l'argent de qui ? La question est de savoir. Donc quand on veut juger ces corrompus, moi je dis qu'il faut juger aussi les corrupteurs qui vont avec. Or, les corrupteurs sont intouchables. On ne touche que les corrompus. Donc leur argent se trouve dans des comptes offshore, à l'étranger, voire même des comptes en banque en Suisse. Mais bien sûr, ça, on ne touche pas. Mais oui, mais bien sûr, les enjeux de la région sont... Mais oui, mais on connaît très bien, voilà, toutes les sociétés qui s'implantent, que ce soit chez nous, en Afrique, voilà, c'est pas... Donc, voilà, quand on en a marre d'un dictateur, on le tue, on met un autre à sa place, et puis ce dictateur est toujours complice d'enjeux qui dépassent le récit, enfin, l'intérêt du pays en soi ou de la société civile. Donc, cette plate tournante crée un hypercapitalisme et une consommation qui est en fait de façade et qui n'est basée sur rien. Il n'y a aucune structure. D'ailleurs, on n'a pas de réseau routier, on n'a pas de réseau hospitalier. L'éducation ne fonctionne que sur un secteur privé qui aujourd'hui, à cause de la crise économique et de l'argent qui a été hijacké par le système, par les banques, en fait, dans des pays, on fait des haircuts de 15%, de 20%, la Grèce c'était 20%, Chypre je ne sais pas combien, chez nous c'est 85%. Donc en fait, vous avez toutes vos économies et vous vous retrouvez de 100 euros à 15 euros. C'est ce que vous avez vraiment. Donc même le secteur privé aujourd'hui est menacé, d'où le fait que nous sommes en pénurie de tout. Parce que ce secteur privé qui tenait cette société-là, eh ben aujourd'hui, il est en grand déficit. Et même le système éducationnel, pour reprendre, finalement, on n'a pas un problème d'analphabétisation au Liban, mais aujourd'hui, on a un problème pour maintenir un système éducatif qui était quand même un de nos socles et un de nos piliers. C'est tout ce qui nous restait. Voilà. Donc, et ça, et aussi le tourisme hospitalier, nous avons de très très bons médecins, nous avons un très bon service médical. Et aujourd'hui, alors, juste pour dire, par exemple, on vient pour nous aider, c'est très sympa, on nous aide comment ? Là, il y a une société française qui est venue récupérer 1500 infirmiers pour leur offrir des postes à l'étranger. Donc, ça n'aide pas le local, ça ne nous aide pas du tout. Donc, c'est au contraire, on nous vide de notre... Et tout va comme ça. Mais juste, je rebondis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure de l'importance finalement de ces récits des gens que nous croisons, comment on les transforme, comment par exemple dans Implosion, quand il y a eu cette explosion, le premier réflexe c'est de rester chez soi, de rester cloîtré dans finalement la peur de ce qui nous arrive.
Ça parce qu'on a le bonheur d'avoir des personnes qui sont arrivées du 4 août 2020 à Beyrouth.
Voilà. Et en fait, juste après, j'ai eu ces réflexes de vouloir descendre, rencontrer les gens. Et de ces rencontres-là, justement, voilà, ça a nourri ce livre qui est une sorte d'autofiction, fiction, on ne sait pas trop. D'ailleurs, à la fin, je brouille les pistes pour reprendre aussi. C'est super, en fait, cette grande liberté de l'écriture, c'est aussi de brouiller les pistes en permanence. Et voilà, donc c'est quand l'imaginaire reste connecté avec le réel, avec le récit des gens que nous croisons, que nous rencontrons. Ça, c'est fascinant, je trouve, dans le travail d'écriture.
Merci.
Il y a d'autres questions.
Il y a une
vraie question. Oui, bah, profitez-en.
Je vais gagner.
Elle seule, elle fait la voix de tout le public.
Non, mais souvent, vous vous présentez comme et journaliste et écrivain, et notamment, vous avez évoqué le fait que des rencontres alimentent des romans. Et vous, j'ai l'impression que c'était le contraire, c'était pas du tout un roman, en fait, c'était un récit.
Oui.
Je me demandais
comment ça articule pour moi, mais je sais pas si c'est très représentatif de mes collègues, mais de mes confrères et consoeurs, mais c'est tout ça est très entremêlé. Enfin, je ne dis pas qu'un livre est simplement un long reportage, mais l'approche est assez semblable. C'est-à-dire que, comment le dire, Je ne sais pas si je suis véritablement journaliste ou écrivain. Je sais que je suis intéressé par les gens, je suis curieux, j'aime les entendre, j'aime confronter leurs points de vue les uns des autres, mais je ne sais pas si je suis écrivain ou journaliste. Ce que je sais, c'est que je suis pas romancier. Ça, c'est encore autre chose. J'ai un manque cruel d'imagination. J'ai besoin de vivre les choses, j'ai besoin de rencontrer les gens pour les raconter.
Mais pourtant, c'est pas du tout un déficit d'imagination. Oui. Du coup, c'est très poétique, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors, se balader avec des pancartes n'importe où, pour moi, c'est...
Il y a aussi une dimension qui m'a beaucoup questionné. Le journalisme, c'est un exercice du concret. C'est-à-dire que le but, c'est quand même, quand on va recueillir un témoignage, quand on fait le portrait de quelqu'un ou quand on couvre un événement, c'est d'être le plus fidèle possible. Et le roman, c'est une autre dimension, c'est une autre façon de raconter le réel qui est beaucoup plus plaisante parce qu'elle nous permet de... une plus grande liberté. Elle permet de faire fonctionner quelque chose qu'on ne doit pas utiliser quand on est journaliste, c'est l'imagination. Et parce que le journaliste doit rester quand même fidèle aux faits, donc il faut quand même éviter d'extrapoler. Tu es d'accord avec moi. Et le romancier, justement, tu peux recréer des situations, tu peux recréer des univers, on peut réinventer les choses. Et alors, ce qui est le plus étonnant, moi, ce qui m'a toujours étonné quand j'ai fait ce travail-là de journaliste, c'est que je me suis dit que mes romans étaient très souvent en deçà de la réalité. Par exemple, je vais vous prendre deux exemples. Dans Les Hommes Incertains, je parle de ce phénomène que connaissent les Russes, le mysticisme permanent dans le monde politique. Moi, quand j'étais journaliste à Moscou, j'ai interviewé la voyante de Boris Eltsine. Boris Eltsine avait une voyante qui s'appelait Jonah. C'était déjà une dame assez âgée à l'époque. Et c'était une star des médias. Les médias parlaient régulièrement de Jonah, de ses prédictions, de ce que Boris Eltsine lui payait, etc., etc. C'était la voyante de Brejnev quand elle était jeune. Staline avait un voyant qui s'appelait Wolf Messing, qui était un Allemand de la Volga. Vous savez que les Allemands, à un moment, ont été déportés sur la Volga, sont partis là-bas. Et en fait, ce vieux fond de mysticisme, et ça, quand on le raconte dans les romans, les gens disent « Non, c'est pas possible. » Donc, quand j'ai écrit mon premier roman, c'est-à-dire « L'ivresse du sergent Dida », qui est l'histoire d'un petit capitaine qui prend le pouvoir, je me suis quand même beaucoup basé sur l'exemple guinéen, où en 2008-2009, à la mort de l'ancien Aconté, il y a un capitaine qui a pris le pouvoir. Ce gars était tellement bête, il était tellement méchant, il était tellement malfaisant. Il avait essayé de violer une journaliste de Jeune Afrique venue l'interviewer dans sa chambre. C'était une catastrophe. Il menait le pays et on le voyait, on le savait, il suffisait de l'approcher 2 minutes pour comprendre que ce type allait provoquer un bain de sang. Et le pays a été sauvé parce qu'il s'est fâché avec son chef de la garde présidentielle et le mec lui a tiré dessus et puis il a failli le tuer. Bon, et puis il y a eu une transition, ils sont passés à autre chose. Mais on ne peut pas raconter ça dans un roman. Si je raconte ça texto dans le roman, les gens vont dire mon gars, tu es fou, c'est pas vrai, c'est pas la vérité, c'est très raciste ce que tu dis, etc. etc. Donc le roman est parfois en deçà de la réalité, mais il permet tout à la fois d'en dire beaucoup plus. Et voilà, les rapports entre le journalisme et la fiction sont là. C'est qu'ils permettent de raconter la même chose en allant soit plus loin, soit moins loin, en étant peut-être, en disant tout autant de choses, mais sans choquer. Et ce que je dis sur Dadis Camara, ce fameux dictateur, peu de journalistes l'ont écrit parce que ça paraissait trop
absurde.
Oui, trop absurde, trop empreint de sentiments personnels. C'est-à-dire qu'un journaliste doit s'abstenir d'écrire ses sentiments personnels. Un romancier peut le faire en revanche. Mais voilà, donc les rapports entre le roman et le journalisme sont très complexes et très intéressants aussi à explorer. Et ces deux exercices sont très différents.
Est-ce que vous voulez devenir romancier ou journaliste?
Non, mais ça m'intéressait le rapport à la vérité, en fait. Parce que quand on essaie de transcrire une expérience, j'imagine qu'on ne veut pas trop... je ne sais pas, mais... Si on veut être fidèle à ce qu'on voit dans la France ou dans le monde, et d'un autre côté, on dit que c'est un roman,
Une petite anecdote,
petite anecdote. Dans Tout a halluciné, le père qui vit dans la nostalgie de Byzance et le regret. J'ai un grand-oncle qui refuse de dire Istanbul et qui dit Constantinople occupée. Il refuse. C'est lui qui m'a inspiré le personnage du père. Donc, c'est fou.
Ouais, c'est pas mal.
Mais alors, la vérité, c'est un autre mot qu'il faut manier avec beaucoup de précautions, que ce soit dans le roman ou dans le journalisme. Parce que c'est. Même en tant que journaliste, on ne peut pas prétendre dire une vérité. On peut exposer des faits, mais on n'a jamais toutes les facettes d'une problématique pour dire voilà la vérité. La vérité, c'est, pour moi, c'est quelque chose de subjectif, c'est un concept très subjectif. Voilà.
On veut dire la réalité.
Voilà. La réalité du mauvais fait, la réalité.
Non, mais j'imagine qu'on ne vit peut-être pas. Quand on est dans. Quand on veut raconter une histoire et qu'on rapporte des paroles ou des choses comme ça, j'imagine qu'on ne pas faire dire quelque chose à quelqu'un.
Oui, mais effectivement, mais on travestit quand même d'une certaine manière la réalité, puisqu'on décide de garder une phrase quand un confrère, une consoeur aurait choisi une autre phrase. Donc, déjà une distorsion de la réalité pure.
Oui, une certaine subjectivité.
Une subjectivité, absolument. Je te rejoins tout à fait, l'idée, c'est ça. Chacun a sa vérité d'une certaine manière. Et là où le journaliste ne peut pas prétendre à l'objectivité, puisque de fait, on n'est pas objectif. On regarde chacun la même chose. Moi qui ai voyagé avec mon copain Pierre, vous voyez, on voyage au même endroit, on était côte à côte, et lui retenait quelque chose d'une ville et moi autre chose. Et même du même événement, mais avec des différentes interprétations. Donc on ne peut pas prétendre à l'objectivité, on peut par contre prétendre, dans le cadre du journalisme, à la neutralité. C'est-à-dire essayer de mettre de vérifier absolument, de croiser les sources et d'essayer de ne pas trop trahir, quoi.
Et cette question de l'objectivité, elle est intéressante parce que même dans une famille, dans une fratrie, par exemple, retrouvez-vous avec vos frères et sœurs dans une réunion de famille et parlez d'un souvenir commun, vous allez entendre trois récits différents, ou quatre, cinq. Et ça, moi, je l'expérimente régulièrement dans la famille, c'est un exercice très drôle. Chacun a sa version.
Chacun a son sorte comme si c'était. Ouais. Chacun a halluciné la même chose. Enfin, halluciné à partir de la même chose, quelque chose d'autre.
C'est la phrase de Montesquieu que tu citais, quoi.
Tout le monde aime la France,
mais pas la même.
Ça,
voilà.
C'est super.
Et on a chacun notre vérité, notre réalité.
Ouais. Et c'est sur ce que je. C'est sur cette considération et sur cette citation que je propose de. On était entre nous, ça avait une forme, mais comme ça permettait plus de questions directes et tout ça. Alors, je recite les titres de vos livres, c'est surprenant quand même. Donc, Là où naissent les prophètes, donc votre troisième livre, c'est aux éditions du Passage, donc c'est sur le temps du Passage qu'on peut vous rencontrer jusqu'à.
Jusqu'à demain soir.
Votre dernier livre à vous, Yamin Yared, c'est Implosion au pluriel. Macrocosme, microcosme, encore une fois, entre ce qui s'est passé avec vous le 4 août 2020 et puis ce qu'il en advient sur un couple et ses enfants. C'est aux Équateurs, et donc c'est sur le stand des Équateurs qu'on vous voit signer, et jusqu'à.
Demain soir,
oui. Et c'est les Tribulations d'un Français en France, au Rocher, aux éditions du Rocher. Donc on vous retrouvera sur ce temps, et pareil jusqu'à demain soir aussi.
Jusqu'à demain soir.
Ok, voilà, vous avez d'accord trouvé nos trois auteurs. Merci à vous.
Au revoir. Merci à toi.
Oui.